de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 14 janvier 1986.
Le point de vue de la philosophie politique, on pose cette question, j'y réponds tout de suite. Pourquoi fait-on des oraisons communautaires si cela est uniquement un acte personnel? Alors, d'abord, nous sommes dans l'ordre surnaturel. Je crois qu'au point de vue politique, on ne ferait pas d'oraison communautaire. Nous sommes dans l'ordre surnaturel, c'est-à-dire le mystère de l'Église. Qu'il y ait une politique dans le mystère de l'Église, c'est bien évident. C'est ce qu'on appelle l'économie divine. Et l'économie divine consiste à faire que la charité qui nous unit à Dieu nous mette de plus en plus dans la solitude à l'égard de Dieu. Oraison et contemplation. Et comme au plan surnaturel, l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain ne font qu'un. Nous comprenons comment l'Esprit Saint peut nous demander de jouer sur les deux claviers en même temps. Sainte Thérèse aime bien dire ça. L'Esprit Saint aime de jouer sur les deux claviers. Le clavier charité à l'égard de Dieu, vous faites oraison dans la stricte solitude. Clavier de la charité fraternelle, vous acceptez, vous supportez, vous aimez. Le frère qui est à côté de vous dort. C'est la charité fraternelle. Et c'est vraiment les deux axes, les deux aspects de notre vie chrétienne, l'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard du prochain, c'est tout à fait différent dans l'ordre politique humaine. Parce que dans l'ordre de la politique humaine, l'amour à l'égard de Dieu et l'amour d'amitié à l'égard des concitoyens, à l'égard des amis, c'est pas du même ordre. D'un côté, c'est de l'adoration. Et vous n'adorez pas le concitoyen. Et vous essayez de l'aimer et de coopérer avec lui. Alors vous faites la cuisine avec lui. Les jours de grandes fêtes. La cuisine politique pour toute la communauté, ces jours de fête. La cuisine ordinaire. Pendant la liturgie ordinaire, n'est-ce pas? Alors on fait la cuisine ordinaire, ça fait partie d'un acte politique. C'est un acte politique de faire la cuisine pour une communauté. C'est un acte politique de faire le marmiton pour la communauté. Parce qu'on pourrait empoisonner toute la communauté. Donc c'est un acte politique auquel on fait une confiance énorme envers les cuisiniers. Ils oublient la confiance énorme qu'on leur fait, ce qui pourrait très bien empoisonner toute la communauté. C'est une mauvaise idée que je vous donne. Ça fait partie de la politique, ça. Bon, nous allons maintenant entrer, après avoir essayé de voir qu'est-ce que c'est qu'un acte politique, essayons de voir toutes les dimensions de l'acte politique. Puis nous essaierons de voir où la vie politique commence d'une manière fondamentale. Je serai assez bref pour essayer d'étudier toutes les dimensions de l'acte politique. Première dimension, la prudence. Et ceci se voit directement dans le fait de voter. Voter est un acte de prudence. Parce que vous choisissez un candidat et le choix relève de la prudence politique. Alors, quelquefois, c'est très facile, quelquefois, c'est pas commode du tout à voir. Prudence politique. La prudence apparaît comme la sagesse au niveau politique. La prudence doit être éclairée par la justice. La justice est la vertu fondamentale pour le point de vue de la politique. L'abbé Pierre disait dans ses conférences, je l'ai écouté à Fribourg, parce que je voulais le connaître, puis voir un tout petit peu ce qu'il pouvait dire. Alors à la fin de la conférence, j'avais envie de lui dire, je vous en supplie, continuez de faire ce que vous faites, c'est magnifique, et ne parlez plus, parce que vous dites de grosses bêtises. Et c'est vrai, il disait de grosses bêtises, au point de vue théologique et au point de vue philosophique. Il disait que les lois, j'ai retenu, les lois auraient dû être faites pour le citoyen le plus pauvre. Donc, jamais payer ses impôts, on ne peut pas. Pas de loi, d'impôts. Alors, il remplaçait la justice par la miséricorde. Et il disait ouvertement, je vous dis, ça, je l'ai gardé, parce que quand on entend des choses comme ça, on ne les oublie pas, que les lois devaient regarder la situation du citoyen le plus pauvre et les faire en fonction de ce citoyen. Ça, c'est la miséricorde, c'est pas la justice. Confusion de la communauté ecclésiale et de la communauté politique. La communauté ecclésiale est fondée sur la miséricorde. Ça, c'est sûr. Jésus fonde son Église sur la miséricorde. Tandis que la communauté politique est fondée sur la justice et non pas la miséricorde. Donc la justice joue un rôle très important. Justice commutative, justice distributive, justice légale, on le verra. Parce que c'est très important de voir ça. Ensuite, tout acte politique implique des responsabilités à l'égard des autres, par la justice. Si vous ne payez pas vos impôts, un autre devra les payer à votre place. C'est bien évident. Donc, il faut avoir ce sens du respect de l'autre. Ça fait partie de la justice. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit de lois iniques, on n'a pas à obéir. Parce qu'on n'a pas à coopérer. Ceci fait aussi partie du sens politique. La justice et ne pas coopérer des injustices, c'est pas toujours commode de bien comprendre cela et de bien réaliser cela. Il faut comprendre que le point de vue politique demande d'être dépassé par des amitiés personnelles et par les actes intérieurs au point de vue intention de vie, au point de vue adoration. Et au point de vue contemplation, ceci échappe à l'aspect politique. Ceci, nous pouvons le faire à partir de n'importe quelle expérience politique. C'est très important de voir que, de fait, l'intention de vie regarde la finalité propre de l'homme. Donc, grande question qu'il faudra se poser, puisque l'activité politique est une activité humaine, quel est l'aspect moral qui intervient dans l'activité politique? Est-ce que l'activité politique est une activité morale? Ou est-ce que l'activité politique n'est pas une activité morale? Nous l'avons vu à propos de Machiavel. Et nous l'avons vu à propos d'Aristote. Aristote dit que l'activité politique implique une activité morale. Machiavel dit que l'activité politique n'a rien de moral. C'est une pure habileté. Donc la question se pose. Si l'intention morale la plus profonde, celle qui est au plus intime de notre cœur, échappe à l'aspect politique, dans quelle mesure l'aspect politique est-il au-delà de la morale? Ou en dessous de la morale, peu importe. Faites la même chose, la même réflexion par rapport à l'adoration, par rapport à la contemplation. Ceci limite, hein. Le travail, qui est l'activité humaine la plus complexe, le travail relève de la politique. Et la politique n'a pas le droit de se désintéresser du travail. Le travail dans l'œuvre qu'on établit, qu'on réalise, il s'agit de faire des œuvres qui aident les citoyens à être plus citoyens. Et si vous mettez à fabriquer des drogues, est-ce que l'État a le droit d'interdire? Si vous fabriquez des armes, est-ce que l'État a le droit d'interdire? Je pose des questions, hein, topiques, et du pour et du contre. Dans quelle mesure l'activité politique demeure-t-elle morale? Et dans quelle mesure est-elle de l'ordre de l'efficacité? Comme un aspect artistique qui regarde uniquement l'œuvre. Dans quelle mesure l'État doit-il permettre et susciter une culture artistique? Là dépend-il de l'État? Le développement de la science dépend-il de l'État? Ça fait partie de la culture. La technique dépend-elle de l'État? Il faut nous demander jusqu'où l'État intervient dans cette question de l'efficacité, de la culture, de la recherche de la science, des techniques, du développement des techniques. Posons-nous encore une autre question. L'État doit-elle intervenir dans la famille? Jusqu'où l'État a-t-il le droit d'intervenir dans la famille au point de vue de la taille, de la grandeur de la famille, le nombre des enfants? C'est quand même très important de savoir si, par rapport à la famille, il y a une soumission de la famille par rapport à l'État, ou au contraire une totale indépendance. Et par rapport au travail de l'homme, par rapport au choix amical, péché, la procréation, dans un foyer où nécessairement les parents mettront au monde des gens mal formés. Et quelquefois même des fous. Est-ce que l'État a le droit d'intervenir? Au nom du droit du bien commun, l'État a-t-il le droit de la peine de mort? Grave sujet. Il paraît que le père Brugberger vient d'éditer un livre là-dessus. À la peine de mort. C'est bien du Brugberger. Mais toutes ces questions, posez toutes les questions, parce qu'il faut se les poser avant d'entrer. Comprendre qu'on est là dans un terrain extrêmement vaste et difficile et complexe. Et que les certitudes auxquelles on va aboutir ne seront pas du même ordre que les certitudes éthiques, que les certitudes métaphysiques. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien que dans le domaine politique, l'opinion joue un rôle très important. Y a-t-il en politique des principes propres ? Où sommes-nous uniquement dans un développement dialectique au niveau des opinions? Le bien commun est-il un principe propre au niveau politique? Ou le bien commun demeure-t-il un bien immanent qui n'a rien de transcendant? Parce qu'il est commun et qui, par le fait même, ne peut pas déterminer une activité qui dépasse le point de vue politique. Est-il encore une fin comme bien? Ça, c'est la question la plus difficile, il faudra la traiter au terme. C'est la question la plus importante, d'une certaine manière, au point de vue statut philosophique de la politique. Parce qu'il semble bien que le seul principe auquel on pousserait se référer, c'est le bien commun. Alors, si ce bien commun n'est pas un principe, il faut voir ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Pas la question, je pose la question. Est-il un principe? N'est-il pas un principe? Fait-il partie du conditionnement? Ou est-il quelque chose qui émerge, qui va plus loin? Toutes les questions, oui, qui peuvent se poser. Alors nous allons tout de suite commencer par le premier aspect. La philosophie politique, qui est la philosophie de la famille. Je crois que c'est le premier aspect. Tout le monde est d'accord qu'il y a la famille et la cité. Que la famille relève ou représente la communauté fondamentale et la cité, la communauté parfaite. Si elle est communauté fondamentale, jusqu'où est-elle fondamentale? C'est-à-dire, a-t-elle son indépendance par rapport à la communauté politique? Ou au contraire, est-elle entièrement saisie par le point de vue de la politique, de la philosophie politique? Question délicate, Il serait intéressant alors de faire une petite topique ici. Je n'ai pas le temps avec vous. On fait une topique générale. Il faudrait faire une petite topique. Comprendre la position de Platon, la position d'Aristote. C'est déjà suffisant de faire cette topique-là. Pour Platon, pas de famille au plan philosophique. Pour Aristote, la famille a son bien commun. Et donc, elle a son autonomie. Elle dépend de l'aspect politique, mais elle a son autonomie. Alors que dans une perspective platonicienne ou stoïcienne, ça se tient. Il n'y a pas d'autonomie. Dans la position marxiste, poussée à l'extrême du socialisme, la famille doit être quelque chose qui est entièrement au service de l'État. C'est l'État qui dirige entièrement le développement de la famille, par le point de vue de l'éducation. Alors là, on soulève tout de suite un très gros problème. J'aurais dû vous le dire avant. L'éducation relève-t-elle de l'État ou de la famille? Je crois que nous devons comprendre que le foyer, parce qu'il repose sur un amour d'amitié et personnel, le foyer est au-delà du point de vue politique. Il a quelque chose de sacré qui n'est pas politique, qui est apolitique, que la politique doit respecter et que la famille comme telle doit vivre. Le couple repose sur un amour d'amitié de l'époux et de l'épouse avec le don des corps. Et donc, il y a quelque chose dans le foyer qui est au-delà de la communauté politique. Cependant, il faut tout de suite dire que la communauté familiale est dépendante sous d'autres aspects de l'aspect politique. C'est pas l'État dans l'État, si vous voulez. C'est autre chose. C'est une communauté qui, pour se développer pleinement, a besoin de l'État. Mais une communauté qui, pour se développer pleinement, a besoin d'être autonome. Une certaine autonomie. Et je crois que ça peut se montrer philosophiquement. Pas théologiquement. Théologiquement, on aurait tout l'enseignement actuel de l'Église qui est très très net là-dessus. Cet enseignement de l'Église ne peut pas s'opposer à une vision philosophique. Si donc vous aboutissez à des conclusions philosophiques qui ne sont pas l'enseignement de l'Église sur la famille, ça prouve que vous vous êtes trompé. Et vous devez tout reprendre. C'est important, ça, surtout aujourd'hui. Alors, comme je suis en philosophie, je regarde le point de vue philosophique par l'expérience que nous avons tous. Et ce que représente, justement, le point de vue ultime de la pensée dialectique, ce point de vue ultime de comprendre que l'autorité du Père a ceci de très particulier, c'est que c'est une autorité qui implique la volonté d'avoir des enfants. Au contraire, la volonté de ne pas en avoir. Et donc, la volonté du Père est racine dans la famille, pas extrinsèque, seul le père de famille peut avoir ce choix libre d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Ce choix sera légitime ou pas légitime, mais ça relève de lui. Vous allez me dire sur quoi vous appuyez pour dire ça? C'est un a priori. Un a priori de chrétien. Conséquence du Concile de Trente. Parce que vous savez qu'au Concile de Trente, les théologiens français voulaient que l'autorisation des parents fut un obstacle par rapport au consentement des enfants. Et donc pas de mariage si les parents n'étaient pas d'accord. Et les théologiens espagnols ont voulu dire l'inverse en s'appuyant sur saint Thomas. Que le mariage est valide en fonction de la liberté des conjoints qui se choisissent. Que les parents soient d'accord ou pas d'accord, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais l'autorité des parents s'arrête au consentement des conjoints. L'autorité des parents peut donner des conseils, mais elle s'arrête. On ne se marie pas pour le bon plaisir de sa mère. On n'entre pas en vie religieuse pour le bon plaisir de sa mère. De son père. C'est un acte libre et qui doit être un acte libre et un acte personnel. Cet acte est au-delà de tout bien commun. Puisqu'on est deux. Deux. Exprime bien une relation fondamentale et première. Se choisir mutuellement. Se choisir dans l'amour. Se choisir en vue de la procréation. Se choisir pour glorifier Dieu. Le choix des époux est un choix de l'ordre volontaire d'amour, d'amitié. Et donc, il est comme tout amour d'amitié personnel au-delà de l'aspect du bien commun. Ça ne fait pas partie du bien commun, l'amour personnel. C'est très important, ça, de bien le saisir. Il peut y avoir une certaine philanthropie au niveau proprement communautaire, et communautaire politique. Mais l'amour d'amitié est au-delà. L'amour d'amitié est quelque chose qui va plus loin, qui touche les personnes et qui touche la fin. Alors, si le couple repose sur l'amour d'amitié, c'est net. Il y a quelque chose dans le couple qui est au-delà de ce que représente le bien commun. Parce que c'est au-delà, justement. Ça ne dépend pas de ce bien commun. C'est quelque chose qui est premier. C'est quelque chose qui demeure plus fondamental et donc plus premier. Cet amour des conjoints peut impliquer un aspect institutionnel. Et cet aspect institutionnel vient de l'État. Vous se mariez devant le maire. Quand on se marie devant le maire, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte politique. C'est pas un acte d'amour d'amitié. C'est un acte politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des quantités ne veulent plus le faire. Pour bien séparer ce que représente dans l'amour d'amitié des conjoints, ce qu'il y a de tout à fait propre au conjoint. Et puis, l'aspect institutionnel, l'institution politique. Quand des mariés vont se marier devant monsieur le maire, c'est un acte politique, Alors, est-ce que l'État a le droit d'institutionnaliser le mariage? Ou est-ce que l'État devrait laisser libre en disant ça relève de l'amour? Puisque ça relève de l'amour, ça ne relève pas de moi. Il y a là un problème très important. Est-ce que l'État peut et doit institutionnaliser le mariage? Là, j'aimerais beaucoup d'avoir vos réponses. Votre cœur est contre et votre intelligence pour. Hein? Partage des eaux. L'État institutionnalise le mariage pour la sauvegarde des enfants. C'est devant le problème de la fécondité des enfants. Un couple qui n'aurait pas d'enfants. On comprend très bien que d'une certaine manière, l'État n'a rien à voir. Dès qu'il y a des enfants, c'est différent. Parce que c'est la survie du peuple, c'est la survie du pays. Et s'il n'y a plus d'enfants, signe de fin du monde, comme on le disait dans la lecture, s'il n'y a plus d'enfants, c'est évident que pour l'État, ça pose un problème. Cette génération sera la dernière. C'est pour ça que l'État institutionnalise, parce que il ne peut vivre qu'à cause de la famille. Et ne pouvant vivre qu'à cause de la famille, il institutionnalise le mariage. Et ça devient une institution d'État. Mais le mariage est plus qu'une institution d'État. Il est en premier lieu le lien d'amour de l'époux et de l'épouse. Il est en premier lieu cette relation personnelle dans ce qu'elle a de plus personnel, de plus individuel, de plus profond. Donc, voyons bien comment ces deux aspects ne s'opposent pas et ne sont pas au même niveau. Le mariage comme amour réciproque de l'époux et de l'épouse relève d'un acte libre et personnel. Il relève, en dehors de Dieu, de personne d'autre. Tout être capable de se marier. On pourrait ajouter un troisième aspect, le contrat de mariage. Les trois aspects, l'amour des conjoints, l'institution, le contrat. Et normalement, les trois existent dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a l'amour d'amitié, l'institution de l'État, et puis le point de vue du contrat de mariage. Et je le cite exprès selon cet ordre. Je crois que ce qu'il y a de plus fondamental et de premier dans le mariage, dans le foyer, c'est l'amour des conjoints. C'est quelque chose de premier et de plus personnel. C'est le dépassement de la personne pour la communauté conjugale. Second moment, l'institution. C'est l'État. Et ça vient après. Et ça vient en fonction des enfants. De fait, hein, l'institution du sacrement, étant l'institution du mariage, au point de vue politique, est antérieure aux enfants. Mais il me semble qu'il est né à cause des enfants. Et c'est ce qui légitime. Ce n'est pas l'amour des conjoints qui légitime ça. C'est parce que cet amour des conjoints a quelque chose de particulier. C'est que, de De fait, cet amour des conjoints va impliquer un don mutuel des corps avec tout le problème de la fécondité. Dans une autre amitié, l'État n'intervient pas. Elle n'est pas vous présenter devant le maire en disant « Ah, monsieur le maire, j'ai découvert un ami ». Non, rien à voir. Si vous ne faites pas de crime commun, si vous n'êtes pas des voleurs communs, l'État vous laisse tranquille. Et le maire vous laissera tranquille. Et toi, vous laissez tranquille. Il n'a pas à légiférer sur l'amitié. Mais il a à légiférer sur l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse pour former un couple. Je crois que c'est légitime pour l'État de le faire. Ensuite, nous avons le contrat. Et je crois que le contrat de mariage, dans un état où la liberté existe, où il y a un certain libéralisme, le contrat, c'est pour sauvegarder les libertés individuelles devant des cas particulièrement difficiles. Donc, le contrat de mariage vient en troisième lieu. C'est vrai que s'il n'y avait que l'amour d'amitié, il n'y aurait pas besoin de contrat. Il y a l'aspect institutionnel qui s'ajoute. Et à partir de là, le contrat vient. Et je crois que le contrat est venu à partir de là. Alors, tous les contrats de mariage possibles, nous n'entrons pas dedans. Ce que nous essayons de comprendre, c'est comment cette petite cellule de vie, d'amour, d'intelligence, cette première cellule qui se forme est un fondement et qui, comme fondement, échappe en partie au regard de l'État. Il y a une intimité dans l'ordre de l'amour d'amitié qui échappe totalement à l'État. Et on le sent très bien, ça. Si on commence à vouloir briser cette intimité, peut-être avec d'excellentes raisons, il y a les assistantes sociales de temps en temps, eh bien, il y a des réactions violentes. On aimera mieux quelquefois la pauvreté que de se laisser un peu violenter. Parce qu'on touche à quelque chose de très profond. Le droit de l'amitié, c'est quelque chose de fondamental. Ça touche directement notre nature. Aristote le souligne, l'amour d'amitié est un amour naturel. Pour un être spirituel, c'est naturel de s'aimer réciproquement et de pouvoir faire une œuvre commune. Si c'est un amour naturel, on comprend que si le foyer repose sur une des modalités de l'amour d'amitié, la modalité la plus forte, on comprend que le foyer est quelque chose de tout à fait fondamental, quelque chose de tout à fait premier, et qu'il échappe à toutes les autres communautés. Au point de vue philosophique, hein, je ne parle pas au point de vue théologique. Et ça, au point de vue philosophique, je crois que c'est très important de sauvegarder l'autonomie de la famille. Alors, la famille a une autonomie qui n'est pas absolue. Elle dépend d'un État. Il faut avoir des passeports, il faut avoir une carte d'identité. Parce que votre identité disparaîtra autrement. Alors, vous avez une carte d'identité politique. Et réfléchissez sur ce que c'est que d'avoir une identité politique. Ça vous donne un droit de vote. Ça vous donne aussi un droit de payer vos impôts. C'est pour ça que certains aiment mieux vivre en dehors. C'est mieux vivre en dehors. Être absolument en dehors de toute espèce d'organisation. Parce que il y a des obligations. Il y a des apaches. prennent des noms multiples et divers aujourd'hui. Hein. Alors je ne décline pas, mais ça existe tout le temps. Je rappelle cette réaction de quelqu'un, je ne vous dis pas qui, parce que subitement se trouve devant quelqu'un qui lui demande en tant que prêtre de... Je voudrais vous voir. Alors l'autre lui dit, oui, c'est très bien, dites-moi qui vous êtes. Alors il fait ni une ni deux. Il a enlevé sa perruque et a enlevé ses dents. Des lois. Ça arrivera peut-être qu'on vous demandera de faire des mariages clandestins en dehors de la loi. Alors vous êtes passible actuellement à ce moment-là. Vous êtes passible de la prison. Vous êtes passible de. Parce que vous faites un acte qui n'est plus un acte légal. Mais dans votre conscience de prêt, après avoir été très prudent, dans votre conscience de prêtre, vous n'avez pas le droit de refuser le mariage à des jeunes qui veulent se marier, qui sont dans une situation illégale. Et on fait un mariage clandestin. Arriver, mariage clandestin. C'est assez impressionnant du reste. Parce que là, on sent que l'Église est au-delà de l'État et que l'Église regarde le bien individuel de la personne. Normalement, vous ne pouvez pas marier. Vous ne pouvez pas marier à l'Église sans le mariage légal. Mais dans certains cas où le mariage légal est impossible, des immigrés qui n'ont pas la possibilité d'être connus dans un pays et qui s'aiment et qui, d'un autre côté, sont dans des situations impossibles. L'Église reconnaît qu'il faut le droit naturel au mariage. Le droit naturel. C'est un droit naturel de s'aimer et de pouvoir fonder un foyer. C'est un droit naturel. C'est une législation, évidemment, qui, heureusement, n'existe pas tout le temps, mais ça existe, vous savez bien, cette chose qui a été dite quand le Saint-Père est allé, je ne sais plus trop, il a reçu des injures, des télégrammes d'injures qui venaient de la Chine. Tant que vous ne reconnaîtrez pas, tant que vous reconnaîtrez Formose, et que vous ne condamnerez pas la position des chrétiens qui sont à Formose, la Chine vous est interdite. Il a reçu des télégrammes d'injure, des chefs d'État. C'est encore la même position. L'Église ne peut pas condamner. Elle est au-delà. Le fou. s'agit du mariage, c'est très important, parce que ça met tout de suite en lumière que le mariage est un droit naturel. On n'a pas le droit, sous des motifs politiques, d'arrêter. Et l'Église reconnaît, en faisant ça, l'Église reconnaît que le mariage est fondamental par rapport à l'État. Et donc, dans certains cas, le foyer passe devant. Un droit naturel, fondamental, qu'il faut pleinement respecter et qu'on n'a pas le droit de ne pas respecter. Thank you.